Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mupien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je suis au domicile de Florence Sébron, à Nogent-sur-Oise, pour parler de son premier ouvrage sorti en décembre 2019 qui a pour nom Marianne à la rue.
Bonjour.
Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît ?
Alors, je vais dire que je deviens écrivaine, ça c'est chouette. J'aime beaucoup écrire depuis très longtemps. C'était très prolifique, mais très timide au sens de la propre reconnaissance que j'avais de mon écriture, mais c'était une écriture absolument nécessaire depuis très longtemps. Par ailleurs, je suis enseignante, voilà, depuis 20 ans, en école primaire, essentiellement, bah, toujours à Creil d'ailleurs. Enseignant, c'était le moyen d'être avec les enfants creillois.
Vous avez quel niveau ?
Alors, j'enseigne en CE2, CM1, CM2, et ça aussi, c'est un choix. C'est-à-dire que dans peu d'écoles de France maintenant, il y a des classes multiniveaux. La France a choisi de faire des enseignements par classe d'âge. Moi, j'ai découvert depuis pratiquement le début de mon enseignement que ces niveaux programmatiques, on va dire, ne correspondaient pas du tout à ce que je percevais de l'enfance. J'ai eu la chance, dès mon premier poste, d'être avec des enfants qui ne rentraient pas dans les cases âge scolaire.
Alors, on va parler, Florence, de votre ouvrage, Marianne à la rue. Quelque part, c'est le témoignage, le récit de ce qui s'est passé à l'automne 2019 dans la ville de Creil, et plus particulièrement à l'école Gérard de Nerval, qui est située sur le plateau Rouer.
Oui, c'est cela. Donc, moi, je suis enseignante dans cette école depuis 5 ans maintenant, donc 4 ans l'an dernier. Et il s'est passé un événement qui se passe dans de nombreuses écoles de France, mais qui ne se passe pas. Beaucoup d'enfants en France vivent dans la clandestinité, mais sans que personne ne le sache, puisque le propre de la clandestinité, c'est de ne pas se faire savoir. Parfois, ça craque et on apprend que les élèves auprès de qui nous enseignons sont dans des situations extrêmement précaires. Et une fois qu'on le sait, on ne peut plus fermer les yeux. C'est le récit de ces yeux qui s'ouvrent collectivement.
Ça raconte en quelque sorte le combat des enseignants, mais aussi du personnel, des familles qui viennent en aide en fait, à ces enfants, vous l'avez dit, et aussi aux parents qui, hélas, sans logement.
Alors, plus que sans logement, ils deviennent sans droit de cité en France. C'est-à-dire que la France admet la clandestinité, voire la fabrique. Mais la population de France ne sait pas qu'une partie d'entre elles vit clandestinement. Donc cette famille a été délogée parce qu'elle n'avait plus le droit officiel, plus les papiers pour vivre en France. Mais comme de nombreuses familles, elle avait décidé de continuer à vivre en France et le pourrait de toute façon parce que la force vitale de l'immigration est telle que depuis des milliers d'années, les peuples du monde vivent là où ils ont besoin de vivre.
À l'intérieur, vous parlez du rôle de la maraude du SAMU social, qui est située place Brobeil à Creil. Vous pouvez un petit peu en parler de cette maraude ?
C'est quelque chose que j'ai découvert. Je connaissais le nom de SAMU social. Donc, grâce à cette famille, j'ai pu découvrir une vie nocturne dans ma ville et une vie qui existe partout en France aussi. Donc à Creil, tous les soirs à 19h, vient le SAMU social qui est à la base une association, donc des gens bénévoles ou militants de la solidarité qui ont décidé de venir en aide chaleureuse, donc nourrir, parler, trouver comment héberger des gens qui n'ont pas de logement. Et puis d'année en année, ça s'est institutionnalisé et l'État a externaliser, on va dire, un soutien aux populations les plus démunies en actant le fait que le SAMU social devait être soutenu par des subventions, par du matériel du type camionnette. Et voilà. Et donc, le SAMU social se fait le relais du 115. Et le 115, c'est un organisme qui permet de trouver des logements pour une nuit. pour les gens qui n'en ont pas. Malheureusement, en France, ça ne suffit absolument pas. C'est le haut de l'iceberg. Il n'y a qu'une partie de la population qui peut être hébergée la nuit et les gens qui sont sans logement restent sans logement dans les couloirs des appartements, dans les caves, dans les voitures, sous les ponts.
Les papiers d'Arménie, nous les papiers d'ici, parfums indésirables s'envolent en fumée.
Institution que vous citez à l'intérieur et qui a un rôle aussi important, c'est le CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Alors là aussi, c'est une histoire de militantisme, c'est-à-dire que pratiquement tous les organismes institutionnels en France, peut-être dans le monde, sont issus de mouvements qui ont été créés par des gens qui se solidarisent pour venir en aide à d'autres qui n'ont pas de logement, n'ont pas de papier, n'ont pas de travail, etc. Et donc, les CADA sont des organismes aussi officiels qui accueillent les gens qui sont en demande d'asile. Des personnes qui arrivent en France par leurs propres moyens, souvent dans des conditions absolument déplorables, qui font une demande officielle pour avoir le droit de vivre en France. Alors la situation actuelle et depuis de nombreuses années, c'est que la France et l'Europe, l'espace de Schengen, n'accueillent pratiquement plus que des gens en situation de fuite politique et de danger pour leur personne et leur famille. Donc la demande d'asile, c'est une demande qui doit justifier une maltraitance, des blessures, des impossibilités de vivre dans le pays. Donc beaucoup de gens sont refusés dans leur droit d'asile parce qu'ils ne peuvent pas prouver cela. Au bout d'un an, si la demande a été refusée par l'État français, le CADA met les demandeurs d'asile à la porte avec une reconduite aux frontières qui ne vient pas du CADA, qui vient de l'État français. Donc au départ, on est sur des actes de solidarité. Puis peu à peu, quand l'État intègre ces organismes, eh bien, en même temps, il ferme les robinets et puis il reprend en charge tout ça et ça redevient quelque chose qui est plus limité, plus contraignant.
Vous écoutez actuellement l'interview de l'écrivaine Florence Sébron. Elle nous parle de son ouvrage « Marianne à la rue ». Il est découpé en chapitres et chaque chapitre porte le prénom soit d'enfant, soit d'enseignant ou de personnes qui ont joué un rôle dans cette histoire.
Oui, alors là, on commence à entrer dans le processus littéraire. C'est-à-dire que quand on se lance dans l'écriture, eh bien, il faut lui donner une forme. On n'est plus dans le réel pur. Le réel, il a des formes qu'on ne maîtrise pas. Et donc, moi, j'ai vécu cette histoire de façon très, très singulière, comme personne dans l'histoire ne l'a vécu, d'ailleurs. Et puis, quand je décide de l'écrire, là, je suis obligée de me dire, bon, il y a un minimum de cadre que je vais respecter et qui va nourrir mon écriture. Donc, je n'avais pas forcément décidé de mettre un prénom dès le début au chapitre, mais je pense que tout de suite, j'avais compris que chaque chapitre que j'écrirais aurait pour moteur le regard d'une personne ou mon regard sur une personne. Donc c'est pour ça qu'à la fin ou à un moment de l'écriture, je ne sais plus lequel, les prénoms des personnages sont devenus les titres des chapitres.
Et vous avez modifié les prénoms à l'intérieur. Vous avez choisi de ne pas donner les vrais prénoms des enfants, ni ceux des enseignants. C'est un choix ?
Oui, oui. Alors, c'est un choix par respect pour ces personnes-là. Le respect aurait aussi pu être de les honorer par leurs prénoms. On est dans une histoire de clandestinité, donc il faut absolument respecter cette partie des individus. Et puis, c'est aussi la part de la fiction. C'est le début de la fiction. Une fiction, c'est justement une possibilité de liberté de penser, une liberté de regarder le monde. Donc, modifier les prénoms, c'était aussi cette possibilité d'ouvrir l'écriture sur tous les possibles. Et ça, c'est super important quand on écrit.
Vous racontez à l'intérieur du roman le combat que vous avez mené pour soutenir une famille qui venait d'Arménie.
Oui, c'est cela. Donc, cette famille, tant qu'elle était parent d'élèves de l'école, ne se signifiait pas comme arménienne. Elle était juste une famille de l'école. De temps en temps, le pays d'origine est nécessaire à connaître ou intéressant à connaître, mais c'est pas le préalable de l'activité éducative de cette école, comme de toutes les écoles de France, je pense. Mmh. Cela dit, quand l'origine d'un enfant devient un élément important dans sa vie scolaire, ben on le prend totalement en charge. Et là, ce fut le cas, puisque cette famille était expulsée de France. Donc, nous découvrions des parents qui ne parlaient pas le français, qui tentaient de l'apprendre, mais leurs enfants parlaient brillamment le français. Les parents avaient pu, dans un premier temps de leur vie en France, se contenter de l'apprentissage du français de leurs enfants. Et là, allaient se mettre à eux-mêmes apprendre le français de façon impérative et, je pense, passionnée, parce que voilà, cette vie de solidarité a donné force à leur apprentissage du français. Et donc, à partir de là, nous avons découvert la vie d'une famille arménienne. L'origine arménienne est devenue un élément intéressant pour tout le monde.
Les papiers d'Arménie, ou les papiers d'ici, en sourires allumés, nourrissent à nouveau la solidarité.
C'est vous, en tant qu'enseignant, qui est à même de repérer ce genre de situation ? Situation de danger, tout simplement, pour ces familles.
C'est une situation de danger si la famille n'a pas de lien avec d'autres familles en France. La clandestinité, finalement, est tout à fait possible en France parce que la plupart des êtres qui vivent dans notre pays ont des liens filiaux ou amicaux ou de solidarité diverses avec d'autres gens qui leur permettent de pouvoir se loger, se nourrir, le temps de trouver du travail. Le travail clandestin est un travail très, très, très utilisé en France, non pas par les travailleurs clandestins, mais par les entreprises et par l'État français. Finalement, beaucoup de gens qui vivent dans la clandestinité ne sont pas en si grand danger. Ils sont dans des situations de grande pauvreté, c'est vrai, mais pas forcément de danger. Donc le danger vient quand il y a une reconduite aux frontières effective qui existe réellement. Certains en France aimeraient que ça existe beaucoup plus, et ça existe beaucoup trop, puisque ceux qui sont reconduits aux frontières sont renvoyés à un destin qui est dramatique en dehors de la France. Là, donc, cette famille s'est signalée à nous, comme ça se fait rarement, parce qu'elle s'est sentie en danger, effectivement. Mmh. Voilà. Quand un individu ou une famille sent qu'elle n'a plus prise sur sa destinée, là, elle dévoile sa situation. Mon analyse avec cette écriture et dans mon acte de solidarité, dans ce que j'ai vécu avec eux, c'est le fait de ne plus savoir où on en est qui fait qu'on parle. Ce n'est pas un acte prémédité. Je pense que cette maman, en venant à La Réunion, ne savait pas qu'elle allait le dire. Mais parce que la plupart des êtres humains créent leur vie avec leur propre secret et qui fait partie de leur dignité. Et de temps en temps, on se livre à des gens qu'on connaît pas beaucoup. Et là, c'était l'enseignante de l'école, ce n'était pas moi, l'enseignante d'un des deux enfants, qui a sûrement offert suffisamment de garanties humaines, chaleureuses, pour que cette maman, finalement, rompe le silence, et sans savoir comment elle allait être aidée. C'était trop pour elle que nous la soutenions. Elle ne s'y attendait pas, ça ne faisait pas partie de ce qui était prévu dans sa vie. Donc même notre soutien était étrange pour elle.
La première partie du reportage consacrée à Florence Sébron, auteure de l'ouvrage Marianne à la rue, est terminée. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.